James. Un portrait de femme. Chapitre 42. Isabelle n'avait rien répondu parce que son mari venait de résumer la situation et qu'elle réfléchissait à ce qu'il avait dit. Elle distinguait dans ses paroles un accent qui éveillait tout à coup en elle des vibrations profondes et lui faisait redouter le son de sa propre voix. Après qu'Osmonde fut parti, elle se renversa dans son fauteuil en fermant les yeux, et pendant longtemps, bien avant dans la nuit, et plus avant encore, elle resta dans le salon muet, plongée dans sa méditation. Un domestique vint arranger le feu. Elle le pria d'apporter des bougies neuves et d'aller se coucher. Osmonde la priait de penser à ce qu'il avait dit, et elle y pensa de toutes ses forces, en même temps qu'à bien d'autres choses. La suggestion sortie d'une autre bouche, qu'elle exerçait une influence définie sur Lord Warburton, l'avait agité de ce tressaillement qui accompagne les découvertes inattendues. Était-il vrai qu'il persistât entre eux une entente secrète, qui pût amener son ancien prétendant à faire sa déclaration à penser, un besoin d'approbation de la part de Warburton, un désir d'accomplir ce qui pouvait lui faire plaisir à elle? Isabelle ne s'était pas encore interrogée à ce sujet, faute de s'y sentir contrainte, mais maintenant que la question lui était nettement posée, elle découvrait la réponse, et la réponse l'épouvantait. Oui, il subsistait quelque chose du côté de Lord Warburton. Lors de son arrivée à Rome, elle s'était figuré que le lien qui les unissait était complètement rompu. Puis, peu à peu, elle avait senti qu'il conservait une existence palpable. Il était mince comme un cheveu, mais il y avait des moments où Isabelle croyait l'entendre vibrer. Chez elle, rien n'était changé. Ce qu'elle avait un jour pensé de lui, elle le pensait toujours. Il était inutile que ce sentiment fût altéré, et elle y trouvait même une sorte de réconfort nouveau. Mais lui, gardait-il toujours l'idée qu'elle pourrait devenir pour lui plus que d'autres femmes? Voulait-il s'armer du souvenir des quelques moments d'intimité qu'ils avaient connus autrefois? Isabelle prenait bien conscience de certains symptômes d'une telle disposition. Mais quels étaient ses espoirs, ses prétentions, et de quelle étrange façon les mêlait-il à son goût évidemment très sincère pour la pauvre pensée? Était-il épris de la femme de Gilbert Osmonde, et en ce cas, quelle douceur espérait-il tirer d'un pareil sentiment? S'il aimait penser, il ne pouvait pas aimer sa belle-mère, et s'il aimait la belle-mère, il ne pouvait être amoureux de penser. Devait-elle se prévaloir des avantages qu'elle possédait pour l'amener à se lier à penser, tout en sachant qu'il le ferait pour l'amour d'elle, et non pour l'amour de la jeune fille? Était-ce là le service que son mari attendait d'elle? C'était en tout cas le devoir en face duquel elle se trouvait, du moment où elle s'avouait que son ancien admirateur gardait pour sa société une indéfectible prédilection. Ce n'était pas une tâche agréable, et l'idée même lui en était odieuse. Elle se demandait si Lord Warburton faisait seulement semblant d'être épris de pensée, pour poursuivre une autre satisfaction et courir ce que l'on aurait pu appeler d'autres chances. Elle l'acquitta bientôt de ce raffinement de duplicité. Elle préférait croire à sa parfaite bonne foi. Mais admettre que son admiration pour penser fût une illusion, cela ne valait guère mieux que d'y voir un faux semblant. À force d'errer dans les détours de ses possibilités détestables, Isabelle finit par y perdre complètement son chemin. Certaines d'entre elles, lorsqu'elle les voyait face à face, semblaient odieuses. Puis, s'arrachant au labyrinthe et se frottant les yeux, elle se dit que son imagination lui faisait sûrement peu d'honneur, et que celle de son mari lui en faisait encore moins. Lord Warburton était aussi intéressé que l'honneur le lui commandait, et elle n'était pas plus pour lui qu'elle n'avait à le souhaiter. C'est sur cette certitude qu'elle s'appuierait jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elle ait découvert une preuve plus probante qu'une cynique affirmation d'Osmond. Mais, ce soir-là, cette résolution ne lui apporta qu'un apaisement médiocre, car son âme était assaillie par des terreurs qui s'y précipitaient au premier plan de ses pensées, dès qu'elles y découvraient une place libre. Ce qui les avait ainsi mises en mouvement, elle n'eut pas trop su le dire, sinon peut-être l'étrange surprise qu'elle avait éprouvée cet après-midi-là, en découvrant que son mari était avec Madame Merle, en communication plus étroite qu'elle ne le soupçonnait. Cette impression lui revenait, de temps à autre, et elle s'étonnait maintenant de n'en avoir jamais été frappée. En outre, son entretien récent et bref fournissait un exemple frappant de la faculté d'Osmonde de dessécher tout ce qu'il regardait. Il était très joli pour Isabelle de tenter de lui donner une preuve de loyauté, mais à la vérité, le simple fait qu'il espérait une chose suffisait à l'entacher de suspicion. On aurait pu croire qu'il avait le mauvais œil, que sa présence était une flétrissure, et sa faveur une infortune. La faute en était-elle à lui, ou fallait-il en accuser la profonde méfiance que sa femme avait conçue de sa personne? Cette méfiance était le fruit le plus clair de leur brève vie conjugale. Entre eux s'était ouvert un abîme, par-dessus lequel ils se regardaient avec des yeux où s'affirmait de part et d'autre la déception qu'ils avaient subie. C'était un antagonisme étrange, dont Isabelle n'aurait jamais rêvé, un antagonisme dans lequel le principe vital d'un des adversaires était pour l'autre objet de mépris. Ce n'était pas la faute d'Isabelle, elle n'avait pas usé de tromperie, elle s'était contentée d'admirer et de croire. Ses premiers pas, elle les avait faits avec la plus parfaite confiance, jusqu'à l'heure où elle s'était soudain aperçue que la perspective infinie d'une vie multipliée n'était qu'une allée étroite et sombre, avec un mur nu au bout. Au lieu de monter vers les hautes sphères du bonheur, d'où l'on aurait le monde sous les yeux et d'où l'on pourrait regarder avec un sentiment d'exaltation et de supériorité, d'où l'on pourrait juger, choisir et s'apitoyer, elle s'enfonçait plutôt sous la terre, dans des royaumes de restriction et de tristesse, où semblait descendre de très haut le bruit d'existence plus facile et plus libre, qui ne servait qu'à accentuer un sentiment de vie manquée. C'était la méfiance profonde qu'elle avait conçue de son mari qui assombrissait le monde. Sentiment facile à indiquer, mais moins facile à expliquer, et de caractère si complexe qu'il avait fallu beaucoup de temps et plus encore de souffrance pour l'amener à son état de perfection actuelle. La souffrance, chez Isabelle, constituait un état actif. Ce n'était pas une stupeur, un désespoir, un refroidissement de la vie, c'était une passion de pensée, de raisonnement, de réponse à toutes les excitations. Pourtant, elle se flattait d'avoir gardé pour elle le secret de sa foi chancelante, et de ne l'avoir laissé deviner qu'à Osmonde. Lui ne l'ignorait point, et il y avait des moments où Isabelle pensait qu'il s'en amusait. La chose était venue petit à petit. Ce n'est qu'à la fin de leur première année commune, si délicieusement intime d'abord, qu'Isabelle s'était inquiétée. Puis l'ombre s'était épaissie, comme si Osmonde avait, de propos délibérés et presque malignement, éteint les lumières, une à une. L'obscurité d'abord avait été peu marquée, et l'on y pouvait encore voir sa route. Puis elle s'était rapidement épaissie, et si elle se levait de temps à autre, certains coins de la scène restaient impénétrablement sombres. Ces ombres n'étaient pas des émanations de l'esprit d'Isabelle. Elle en était parfaitement certaine. Elle avait fait son possible pour être juste et raisonnable, pour ne voir que la vérité. Elles étaient une part, une sorte de sécrétion et de conséquence de la présence même de son mari. Ce n'étaient ni des vilenies ni des turpitudes. Elle ne portait contre lui aucune accusation, sauf d'une action qui n'était pas un crime. Elle ne connaissait pas de méfait à lui reprocher. Il n'était ni violent ni cruel. Elle croyait seulement sentir qu'il la haïssait. Voilà tout ce dont elle l'accusait, et la misère de la chose, c'était précisément de n'avoir pas affaire à un crime, car contre un crime elle eût pu trouver un recours. Il s'était aperçu qu'elle était absolument différente, qu'elle n'était en rien ce qu'il attendait d'elle. Il avait d'abord espéré pouvoir la changer, et elle avait fait de son mieux pour devenir telle qu'il la souhaitait. Mais elle était après tout elle-même, sans y pouvoir rien, et maintenant elle n'avait plus que faire de faux semblants, de robes ou de masques, car il la connaissait et avait pris sa résolution. Elle n'avait pas peur de lui, elle ne redoutait pas de blessure de sa part, car la rancune qu'il lui portait n'était pas de cette espèce-là. Il ferait tout ce qu'il pourrait pour ne jamais fournir de prétexte à sa femme, pour ne jamais se mettre dans son tort. Isabelle, qui fixait sur l'avenir des yeux secs et dilatés, voyait bien qu'en cela il l'emporterait sur elle. Elle lui fournirait de nombreux prétextes, elle se mettrait bien des fois dans son tort. Venaient des heures où elle s'apitoyait presque sur son compte, car si elle ne l'avait pas volontairement déçue, elle comprenait avec quelle plénitude en définitive elle l'avait fait. Elle s'était effacée lors de leur première rencontre, elle s'était faite toute petite, comme pour laisser croire qu'elle avait moins d'importance qu'en réalité. C'est parce qu'elle s'était abandonnée à un charme extraordinaire qu'Osmonde, de son côté, avait pris la peine de se mettre en avant. Il n'avait pas changé, il ne s'était pas déguisé plus qu'elle pendant l'année de leurs accordailles. Mais elle ne voyait que la moitié de sa nature, comme on voit le disque de la lune quand il est en partie masqué par l'ombre de la terre. Elle voyait la pleine lune maintenant, elle voyait l'homme tout entier. Elle était restée pour ainsi dire à l'écart, pour lui laisser le champ libre, mais cette discrétion ne l'avait pas empêchée de prendre une partie pour le tout. Ah, elle s'était sentie puissamment sous le charme, et le charme n'avait pas perdu de son pouvoir, il opérait encore. Elle savait parfaitement ce qui rendait Osmond exquis quand il le voulait. Il avait voulu l'être lorsqu'il lui faisait la cour, et comme elle demandait à être charmée, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il y eût réussi. Il avait réussi parce qu'il était sincère. Isabelle n'aurait jamais songé à mettre en doute cette sincérité. Il l'admirait et ne lui cachait pas qu'elle était la femme la mieux douée d'imagination qu'il eût connue. Rien de plus plausible, car au cours de ces mois, elle avait imaginé un monde de choses sans substance. Elle s'était fait de lui une vision prodigieuse, nourrie par des sens enchantés et une imagination follement en éveil. Elle ne l'avait pas bien vue. Elle s'était laissée toucher par certaines combinaisons de traits qui formaient par leur assemblage la plus frappante des figures. Qu'il fût pauvre et solitaire, et noble aussi par certains côtés, voilà ce qui l'intéressait et semblait lui fournir sa chance. Il y avait une indéfinissable beauté en lui, dans sa situation, dans son esprit, dans ses traits. Elle sentait du même coup qu'il était désarmé et impuissant, mais ce sentiment prenait la forme d'une tendresse qui était la fleur même du respect. Il la faisait songer à un voyageur sceptique, errant sur le rivage dans l'attente de la marée, regardant la haute mer et ne se décidant pas à embarquer. C'était là que gisait pour elle l'occasion. Elle lancerait le bateau pour lui. Elle serait sa providence. Ce serait une bonne chose de l'aimer. Et elle l'avait aimé. Elle s'était anxieusement et ardemment donnée, beaucoup au nom de ce qu'elle trouvait en lui, mais beaucoup aussi pour ce qu'elle lui apportait et qui pourrait enrichir le don. En considérant la passion de ces semaines débordantes, elle y voyait une sorte de trait maternel, le bonheur de la femme qui se sentait bienfaisante, qui arrivait avec des mains pleines. Sans son argent, elle s'en rendait compte aujourd'hui, il n'eût jamais envisagé ce mariage. Et ses pensées allaient alors au pauvre Mr. Touchett, qui dormait sous la terre anglaise, au bienveillant auteur d'un infini de peine, car tel était le fait prodigieux. Au fond, son argent avait été un fardeau pour elle, avait pesé sur son esprit qui était rempli du désir d'en transmettre la charge à une autre conscience, à quelque réceptacle mieux fait pour le recevoir. Comment soulager plus efficacement sa conscience qu'en le transmettant à l'homme pourvu du meilleur goût au monde? À moins de le donner à quelque hôpital, elle n'en pouvait faire meilleur usage, et il n'y avait pas d'institution charitable qui l'intéressât autant que Gilbert Osmond. Il userait de sa fortune de façon à lui en donner une meilleure idée, et effacerait certaines aires de mauvais aloi qui s'attachaient à la chance d'un héritage inattendu. Il n'y avait rien de très délicat à hériter de 70 000 livres. Toute la délicatesse venait de Mr. Touchett qui les lui avait léguées. Mais épouser Gilbert Osmond et lui apporter une telle dot, ce serait là de sa part un geste de délicatesse. Il y en aurait moins chez lui, c'était vrai, mais c'était son affaire, et s'il l'aimait, il ne pourrait s'offusquer qu'elle fût riche. N'avait-il pas eu le courage de dire qu'il s'en réjouissait? Les joues d'Isabelle brûlaient lorsqu'elle se demandait si elle s'était vraiment mariée au nom d'un idéal mensonger et pour faire de son argent un noble et appréciable usage. Du moins avait-elle une réponse toute prête. Ce n'était là qu'une moitié de l'histoire. En réalité, elle s'était laissée aller à une certaine ardeur, au sentiment de la profondeur de l'affection d'Osmond, au ravissement de ses qualités personnelles. Il l'emportait sur tous les autres hommes. Cette conviction suprême avait pendant des mois rempli l'esprit d'Isabelle, et elle en gardait encore assez pour se convaincre qu'elle n'aurait su agir autrement qu'elle l'avait fait. Le plus bel organisme humain qu'elle eût jamais rencontré, le plus beau dans le sens le plus subtil, était devenu sa propriété, et la certitude de n'avoir qu'à tendre la main pour le prendre avait été d'abord pour elle une sorte d'acte de dévotion. Elle ne s'était pas trompée sur la beauté de son esprit, qu'elle connaissait parfaitement maintenant. Elle avait vécu près de lui, presque en lui. Il était devenu pour elle comme une habitation. Si elle s'était laissée captiver, il avait fallu une main solide pour la saisir. Cette réflexion comportait peut-être quelque valeur. Jamais elle n'avait rencontré esprit plus ingénieux, plus souple, plus rompu à des exercices admirables. Et c'est avec ce merveilleux instrument qu'il lui fallait maintenant compter. Quant à la déception d'Osmond, sa profondeur la plongeait dans un désarroi infini. Peut-être pouvait-on s'étonner en de telles conditions qu'il ne la haït pas davantage. Elle se souvenait parfaitement de la première marque qu'il lui en avait donnée, et qui demeurait comme le signal du lever de rideau sur le véritable drame de leur vie. Il lui avait dit un jour qu'elle avait trop d'idées, et qu'il lui faudrait s'en débarrasser. Il le lui avait dit avant leur mariage, mais sans qu'elle y prêtât attention. Le souvenir lui en était revenu bien plus tard. Pourtant, cette fois-là, elle ne laissa pas passer la réflexion, à laquelle son mari attachait un sens réel. Les mots eux-mêmes n'étaient rien, mais lorsqu'elle avait, à la lumière d'une expérience approfondie, regardé sous leur surface, ils lui avaient paru lourds de signification. Osmond disait bien ce qu'il voulait dire. Il aurait souhaité qu'elle ne possédât en propre que sa jolie apparence. Isabelle n'ignorait pas qu'elle avait trop d'idées. Elle en avait plus encore qu'il ne le croyait, plus qu'elle n'en avait exprimé quand Osmond lui avait demandé sa main. Oui, elle s'était montrée hypocrite, elle l'aimait tant. Elle avait trop d'idées pour elle seule. N'était-ce pas précisément une raison de se marier pour les partager avec un autre? Osmond ne pouvait pas les arracher par les racines, bien qu'il fût évidemment toujours possible de les réprimer, de prendre garde de ne pas leur donner libre essor. Isabelle n'avait pas d'opinion qu'elle n'eût été ravie de sacrifier pour la satisfaction de se sentir mieux aimée. Ce que voulait dire Osmond, c'était tout elle, son caractère, sa façon de sentir et de juger. Voilà ce qu'elle gardait en réserve, ce qu'il n'avait pas connu avant de la rencontrer face à face, avec la porte fermée sur eux, pour ainsi dire. Elle avait certaines façons de considérer la vie qu'il prenait pour une injure personnelle. Dieu sait que, maintenant du moins, c'était une façon très simple, très accommodante. L'étrange, c'était qu'elle n'eût pas soupçonné d'emblée combien celle d'Osmond était différente. Elle la croyait si large, si aisée, si totalement celle d'un honnête homme et d'un gentilhomme. Ne lui avait-il pas affirmé ne pas se connaître de superstitions, de limitations absurdes, de préjugés dépouillés de fraîcheur? Ne présentait-il pas toute l'apparence d'un homme vivant dans une vie aérée, indifférent aux considérations mesquines, uniquement soucieux de vérité et de connaissance, et croyant que deux êtres intelligents se devaient de les chercher ensemble et tireraient au moins du bonheur de cette recherche, qu'elle fût fructueuse ou non? Il lui avait dit son amour de la tradition, mais la façon dont il faisait cette déclaration lui donnait moins de noblesse. Dans cet amour de l'harmonie et de l'ordre, de la décence et de toutes les grandes fonctions de la vie, elle le suivait sans peine, et son affirmation n'avait rien de redoutable. Mais lorsque, après quelques mois, elle l'avait suivi plus avant, lorsqu'il l'avait introduite au cœur même de sa propre habitation, alors elle avait vu dans quelle prison elle se trouvait réellement. Elle retrouvait encore en elle la terreur incrédule avec laquelle elle avait pris la mesure de sa demeure. C'est entre ces quatre murs qu'elle avait vécu depuis lors, et c'était eux qui l'enclouraient jusqu'au bout de sa vie. C'était la maison de l'obscurité, la maison du silence, de la suffocation. La belle intelligence d'Osmond semblait, à vrai dire, se pencher à une haute lucarne pour se moquer d'Isabelle. Évidemment, elle n'avait pas éprouvé de souffrance physique. À pareille souffrance, on aurait pu trouver un remède. Elle allait et venait à sa guise, elle avait toute liberté, et son mari se montrait d'une politesse parfaite. Il se prenait si bien au sérieux, c'était là la chose affreuse. Sous toute sa culture, sa finesse, son aménité, sous son urbanité, son aisance, sa connaissance de la vie, l'égoïsme se lovait comme un serpent dans un talus fleuri. Elle l'avait pris au sérieux, mais pas dans ce sens-là. Comment y parvenir, surtout depuis qu'elle le connaissait mieux? Il fallait le tenir, comme il se tenait lui-même, pour le premier gentleman d'Europe. C'est bien ainsi qu'elle l'avait considéré d'abord, et c'était la raison même qui le lui avait fait épouser. Mais lorsqu'elle commença de voir ce qu'impliquait une telle foi, elle eut un mouvement de recul. Ce pacte en comportait plus long qu'elle n'en eût voulu accepter. Elle s'entendait soudain dicter un mépris souverain pour tout être, en dehors de trois ou quatre personnages très haut situés, qu'Osmond enviait, et pour toute chose au monde en dehors de quelques idées qui lui étaient propres. Tout cela était encore admissible. Isabelle aurait été très avant avec lui sur cette voie, car il lui montrait si bien la bassesse et la mesquinerie de la vie, ouvrait si grand ses yeux sur la stupidité, la dépravation, l'ignorance de l'espèce humaine, qu'elle s'était laissée impressionner par l'infinie vulgarité des choses et par la nécessité de les côtoyer sans souillure. Mais, somme toute, ce monde bas et ignoble, il était pour chacun sa raison même de vivre. Il fallait toujours garder l'œil sur lui, non pas pour l'éclairer, le convertir ou le sauver, mais pour ne pas laisser échapper la moindre approbation qu'il pouvait accorder à votre supériorité. D'un côté, il était méprisable, et de l'autre, il fournissait une échelle de mesure. Osmond avait parlé de son renoncement, de son indifférence, de la facilité avec laquelle il se dispensait des auxiliaires habituels du succès, et tout cela paraissait admirable à Isabelle. Elle y voyait une totale indifférence, une indépendance admirable. Mais l'indifférence était bien en fait le dernier des apanages de son mari. Elle n'avait jamais vu personne qui fît tel cas de l'opinion. Quant à elle, elle ne se faisait pas faute d'avouer que le monde l'avait toujours intéressée, et que l'étude de ses semblables restait sa passion constante. Elle n'en aurait pas moins renoncé volontiers à toutes ses sympathies et à toutes ses curiosités, au profit d'une vie unique dont le possesseur eût pu lui faire croire qu'elle constituait un avancement. Telle était du moins sa conviction présente, et la chose eût été plus facile à admettre que le goût qu'Osmond montrait pour la société. Il ne pouvait pas vivre sans elle, et Isabelle s'apercevait qu'il ne l'avait jamais fait. Il la regardait de sa fenêtre, au temps même où il en semblait le plus détaché. Il avait son idéal, comme elle s'était efforcée d'en avoir un. Il était seulement étrange que deux êtres puissent chercher la justice de côtés si opposés. Son idéal à lui était une conception de la haute prospérité et de la haute convenance d'une vie aristocratique qu'il se targuait, comme Isabelle s'en apercevait maintenant, d'avoir toujours menée, tout au moins en essence. Il ne s'en était jamais écarté d'un pouce, et ne se serait jamais remis de la honte de l'avoir fait. Cela encore était très bien. À cela encore, elle eût acquiescé. Mais ils attachaient aux mêmes formules des idées si éloignées, des associations et des désirs si différents. La notion que se faisait Isabelle de la vie aristocratique était simplement l'union d'une haute connaissance et d'une grande liberté. La connaissance comportait un sentiment de devoir, et la liberté un sentiment de plaisir. Or, pour Osmond, c'était uniquement une question de forme, d'attitude consciente et calculée. Il aimait les choses anciennes, consacrées, transmises. Elle les aimait aussi, mais non sans la prétention d'en user à son gré. Il avait un immense respect pour la tradition. Il lui avait dit un jour que rien au monde ne valait de la posséder, et que si l'on était assez malheureux pour en être privé, il fallait bien vite l'acquérir. Elle comprenait qu'il entendait par là qu'elle n'avait pas de tradition, mais qu'il était mieux pourvu, lui, bien qu'elle n'eût jamais découvert la source où il l'avait puisée. En tout cas, il possédait une belle collection de clichés, et Isabelle ne fut pas longue à les découvrir. L'important était d'agir en conformité avec ses traditions, l'important pour Isabelle autant que pour lui. Isabelle gardait l'impression confuse que, pour servir à d'autres qu'à leurs propriétaires, les traditions devaient être d'espèces tout à fait supérieures. Mais elle ne se pliait pas moins à la nécessité d'accorder son pas à la musique pompeuse que des époques inconnues avaient préparée pour le passé de son mari. Elle qui, naguère, était si libre de mouvement, si désinvolte, si dégagée, si loin de tout apparat. Il y avait certaines choses à faire, certaines attitudes à prendre, certaines gens à connaître ou à ne pas connaître. Quand elle vit se resserrer autour d'elle ces murs étroits, elle fut saisie, malgré les tapisseries qui les recouvraient, de cette impression d'obscurité et d'étouffement que j'ai signalée. Elle se sentait prisonnière dans une atmosphère de moisissure et de décrépitude. Elle résista, cela va sans dire, d'abord avec beaucoup de gaieté, d'ironie, de tendresse, puis, à mesure que s'aggravait la situation, avec vivacité, avec émotion, avec passion. Elle plaida la cause de la liberté, revendiqua le droit de faire ce qui lui plairait, de ne pas se soucier de l'extérieur et de l'apparence de leur vie, de s'abandonner à d'autres instincts et à d'autres désirs, de se fixer un tout autre idéal. C'est alors que, touchée comme elle ne l'avait jamais été, la personnalité de son mari s'était révélée dans toute sa raideur. Aux arguments d'Isabelle, il ne répondait que par son dédain, et elle le sentit indiciblement honteux d'elle. Comment la jugeait-il ? Triviale, vulgaire, médiocre ? Du moins était-il maintenant assuré qu'elle n'avait pas de tradition. Il n'avait pas prévu qu'elle pût révéler une telle platitude. Ses sentiments étaient dignes d'une feuille radicale ou d'un prédicant unitaire. Son véritable tort, comme elle finit par s'en apercevoir, c'était d'avoir une tête à elle. Son esprit aurait dû appartenir à son mari, être attaché au sien, comme un petit jardin fleuri à un parc. Il en aurait ratissé doucement les allées et arrosé les fleurs, y aurait désherbé les plates-bandes et cueilli parfois un bouquet. C'eût été une gracieuse dépendance d'un domaine déjà beau. Il ne voulait pas que sa femme fût stupide, au contraire, c'est par son intelligence qu'elle l'avait séduit. Mais il demandait que cette intelligence s'employât exclusivement à son service. Loin de souhaiter que son esprit fût vide, il s'était flatté de le trouver profondément réceptif. Il voulait que sa femme sentît avec lui et pour lui, partageât ses opinions, ses ambitions, ses préférences, et force était à Isabelle de s'avouer qu'une telle prétention n'était pas outrecuidante chez un homme si accompli, et un mari primitivement si tendre. mais il y avait certaines choses qu'elle ne pouvait accepter. Pour commencer, elles étaient d'une hideuse malpropreté. Isabelle n'était pas fille de puritain, ce qui ne l'empêchait pas de croire à des mots tels que ceux de chasteté et même de décence. Il était loin d'en aller de même avec Osmonde, dont certaines traditions faisaient serrer à Isabelle ses jupes autour d'elle. Est-ce que toutes les femmes avaient des amants? Est-ce qu'elles mentaient toutes? Est-ce que les meilleures étaient à vendre? N'y en avait-il que 3 ou 4 pour ne pas tromper leur mari? Lorsqu'Isabelle entendait de tels propos, il lui inspirait plus de mépris que des potins de village, et ce mépris gardait sa fraîcheur dans un air méphitique. Il y avait la corruption de sa belle-sœur. Osmonde ne jugeait-il que par la comtesse Gemini? Celle-là mentait très souvent, et sa duplicité n'était pas seulement verbale. Il suffisait de découvrir de tels faits au nombre des traditions d'Osmonde, sans qu'il fût besoin de leur attribuer une extension aussi générale. C'était le mépris d'Isabelle pour ses imputations qui le faisait se redresser de toute sa hauteur. Il possédait lui-même une ample provision de mépris, et trouvait bon que sa femme en fût également pourvue. Mais qu'elle fît tomber la chaude lumière de son dédain sur sa propre conception des choses, c'était un danger qu'il n'avait pas prévu. Il avait cru pouvoir régler les émotions de sa femme, avant de la laisser arriver à ce point. Et Isabelle imaginait facilement combien les oreilles lui avaient brûlé lorsqu'il s'était aperçu qu'il péchait par excès de confiance. L'homme auquel sa femme procurait une telle impression n'avait plus qu'à la haïr. Isabelle était moralement convaincue maintenant que ce sentiment de haine, qui avait été au début pour son mari un refuge et un apaisement, était devenu la raison même et le réconfort de sa vie. Sentiment profond, parce que sincère, depuis qu'Osmonde avait eu la révélation qu'elle pouvait en somme se passer de lui. Si pour la jeune femme l'idée était troublante, si elle lui avait d'abord fait l'impression d'une infidélité, d'une possibilité de pollution, quel effet redoutable ne pouvait-on pas en attendre sur lui? C'était très simple, il la méprisait, elle n'avait pas de tradition, et son horizon moral était celui d'un ministre unitaire, pauvre Isabelle, qui n'avait jamais su comprendre l'unitarisme. Telle était la certitude dans laquelle elle vivait, depuis un temps qu'elle avait cessé d'apprécier. Ce qui allait arriver, ce qu'ils avaient devant eux, tel était l'objet de sa préoccupation constante. Qu'allait-il faire, lui? Qu'aurait-elle dû faire, elle? Un mari qui détestait sa femme, à quoi cela menait-il? Elle ne le détestait pas, elle en était bien sûre, car de temps à autre elle éprouvait le désir passionné de lui ménager une surprise agréable. Mais souvent aussi elle avait peur, et se sentait envahie par le sentiment auquel j'ai déjà fait allusion, de l'avoir déçue dès le premier jour. Quoi qu'il en fût, ils étaient étrangement mariés, et menaient une affreuse existence. Avant le matin de ce jour, il lui avait à peine adressé la parole de toute une semaine. Il gardait une attitude sèche comme un feu consumé. Elle savait qu'il y avait une raison à cela. Il s'irritait du séjour prolongé de Ralph à Rome. Il jugeait qu'Isabelle consacrait trop de temps à son cousin, et lui avait déclaré la semaine précédente qu'il était scandaleux d'aller le voir à l'hôtel. Il en aurait dit plus long si l'état de Ralph n'avait prêté une brutalité particulière aux imputations qu'on pouvait lancer contre lui. Mais la nécessité de se contenir ne faisait qu'ajouter à sa mauvaise humeur. Isabelle voyait tout cela, comme elle aurait vu l'heure sur un cadran d'horloge. Elle savait que l'intérêt qu'elle portait à son cousin excitait la rage de son mari, comme s'il l'eût enfermé à clé dans sa chambre, ainsi qu'il brûlait évidemment de le faire. Elle croyait honnêtement ne pas se montrer provocante, sans pourtant pouvoir affecter d'être indifférente au sort de Ralph. Elle sentait qu'il allait mourir, qu'elle ne le reverrait plus, et cette conviction allumait en elle une tendresse qu'elle n'avait pas encore connue à son endroit. Rien ne lui faisait plus plaisir. Qu'est-ce qui pourrait plaire à une femme qui sent sa vie gâchée? Il y avait sans cesse un poids sur son cœur, une lumière livide sur tout. Seule sa petite visite à Ralph était une lampe dans la nuit. Pendant l'heure qu'elle passait à son chevet, son affliction pour elle-même devenait une affliction pour lui. Il lui faisait maintenant l'effet d'être son frère. Elle n'avait jamais eu de frère. Mais si elle en avait eu un, qui eût été mourant et l'eût vu dans la peine, il lui eût été cher, comme l'était Ralph. Oui, Gilbert pouvait avoir quelques raisons de se montrer jaloux d'elle, car une heure en compagnie de Ralph ne faisait pas voir l'autre à son avantage. Ce n'était pas qu'on parlât de lui, ou qu'Isabelle se plaignît. Son nom ne passait jamais entre eux. C'était simplement que Ralph était généreux et qu'Osmonde ne l'était pas. On sentait, dans la façon de parler de Ralph, dans son sourire, dans le simple fait de sa présence à Rome, quelque chose qui semblait élargir le cercle maudit où se mouvait Isabelle. et lui faisait comprendre la beauté du monde, apprécier ce qui aurait pu être. Il était en somme tout aussi intelligent qu'Osmonde, en dehors de toute question de bonté. Aussi Isabelle tenait-elle pour un acte de charité de lui cacher sa misère morale. Elle la dissimulait avec application. Elle passait le temps de leurs entretiens à pendre des rideaux et à disposer des écrans. Elle revoyait, et n'avait jamais eu le temps d'oublier, cette matinée du jardin florentin, où il la mettait en garde contre Osmonde. Elle n'avait qu'à fermer les yeux pour revoir l'endroit, pour entendre la voix de son cousin, pour sentir la chaude douceur de l'air. Comment savait-il? Par quel mystère? Par quel miracle de pénétration? Aussi intelligent que Gilbert, il l'était bien plus, pour être arrivé à un jugement pareil. Gilbert n'avait jamais été si profond ni si juste. Isabelle avait dit ce jour-là à Ralph qu'il ne saurait jamais de sa bouche s'il avait vu Claire, et c'est à cette promesse qu'elle s'efforçait de rester fidèle. Elle en éprouvait une certaine peine. Il y avait de la passion, de l'exaltation, de la religion dans cette observance. Les femmes imaginent parfois d'étranges exercices pour servir leur religion, et pour le moment, en jouant la comédie devant son cousin, Isabelle croyait user de bonté avec lui. Et peut-être eût-elle atteint son but s'il avait été dupe une seule minute. En l'état des choses, la bonté consistait surtout à tâcher de lui faire croire qu'il l'avait un jour profondément blessée et que l'événement l'avait confondue. Mais qu'en considération de sa maladie et par générosité, Isabelle ne lui tenait pas rigueur et s'abstenait même par discrétion de lui lancer son bonheur au visage. Ralph souriait en lui-même, sur son sofa, de cette extraordinaire forme de discrétion, et ne lui pardonnait pas moins de lui avoir pardonné. Elle ne voulait pas lui causer la peine de la savoir malheureuse. C'était la véritable considération, et peu importait qu'une telle certitude eût été plutôt faite pour l'apaiser. Isabelle s'attarda dans le salon muet bien après que le feu fut éteint. Elle n'avait pas à craindre de sentir le froid, tant elle brûlait de fièvre. Elle entendit sonner les premières heures de la nuit, puis les suivantes, sans que sa veille se préoccupât du temps. Son esprit, livré aux visions, était dans un état d'extraordinaire activité, et autant valait accueillir ses visions où elle était que sur l'oreiller d'où elle chasserait tout espoir de repos. Comme je l'ai dit, elle ne croyait pas user de provocation, et l'on en saurait donner de meilleures preuves que cette longue veille nocturne où elle s'efforça de se convaincre qu'il n'y avait pas plus d'obstacle au mariage de pensée qu'au fait de jeter une lettre à la poste. En entendant sonner 4 heures, elle se leva. Elle allait se coucher enfin, car la lampe était depuis longtemps éteinte et les bougies se consumaient jusqu'aux bobèches. Elle s'arrêta pourtant une dernière fois, au milieu de la pièce, les yeux fixés sur un vivant souvenir, celui d'un entretien étrangement familier entre son mari et Madame Merle.